الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، نواصل رحلتنا في حديقة سلفنا الصالحين، وبعد أن قمنا بتعيين من هم المعنون بهذه اللفظة، وكذلك بعد أن أشرنا إلى شيء يسير مما اتصفوا به من الخصال الطيبات، بقي أن نتحدث عن أمر مهم، وهو عنوان آخر كلمتنا الليلة بإذن الله عز وجل، وهي تحت عنوان القرآن والسنة بفهم من. فلا يختلف المسلمون في أن المرجعية في هذا الدين تكون للقرآن، لكن اختلفوا في مرجعية المسلمين إلى السنة لشديد الأسف. فهناك ممن ينتسب إلى الإسلام يقول لا حاجة لنا في السنة، وهؤلاء سموا ظلما وزورا بالقرآنيين، وهذا اللفظ لا يليق بهم، لأن القرآني هذا وصف شريف، ومثل هؤلاء لا يستحقون هذه التسمية. فيقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، أما السنة فهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء قبل ولادتهم في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أشار إلى هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فهؤلاء يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، وهؤلاء أغبياء وسفهاء لا فهم لهم ولا عقل، لأنك لو سألت أحدهم وقلت له دلني في القرآن على آية تبين عدد ركعات الصلوات الخمس، أو دلني أيضا في القرآن أين وجدت أن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ودلني في القرآن على أصناف الزكاة وقدرها وما أشبه ذلك، فلا يعجزن عجزا تاما، أو يزداد قبحا ويقول كل هذا مذكور في القرآن لكن لا نفهمه. فكل هذا من نزغات الشياطين وإضلالاته، ويدل على السفه وعدم العقل والتفكير السليم في قلوب هؤلاء، فنسأل الله السلامة والعافية. ثم عندكم طائفة أخرى وهم الروافض الذين أنكروا السنة التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، حيث رموهم بالكفر والفسق والضلال فهم أقرب الناس إلى هذه الأوصاف من غيرهم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبعد الناس عن هذا كله. فالحمد لله على السنة والهداية، نسأله عز وجل الثبات على ذلك. وإلا فالمسلمون متفقون على أن المرجعية في هذا الدين في القرآن والسنة، ولذلك يسمون بأهل السنة والجماعة أو بالسنيين. لكن هل هذا كاف؟ يعني أن يقول الإنسان أنا أرجع إلى القرآن وأرجع إلى السنة فقط؟ لا بد له أن يفهم ما يوجد أو ما يوجد في هذين الأصلين العظيمين. فكيف يفهم ما في القرآن وكيف يفهم ما في السنة؟ هل كلف الله تعالى عباده بأن يستقل كل واحد منهم بفهم ما في القرآن وفي السنة؟ لو قال أحد نعم لطالبناه بالدليل وأن يأتينا بآية أو حديث صحيح يدل على ذلك. بل نجد في القرآن خلاف هذا، وهو ذم التفرق والاختلاف، حيث قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه أمرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذم الذين أوتوا الكتاب حيث تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، ونهانا عن أن نكون مثلهم فكيف نعتصم بحبل الله وهو دين الله أو كتاب الله على أقوال المفسرين؟ نعتصم به إذا سلم فهمنا وأسلم ما في الكون من فهم للنصوص الشرعية هو فهم سلف هذه الأمة. وهذا موضوع حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. On a vu ensemble aujourd'hui qui étaient les personnes concernées par l'appellation qu'on entend très souvent qui est les salafs. De qui s'agit-il et quand ces siècles bénis s'arrêtent-ils? On a dit qu'il s'agissait des trois premiers siècles. Depuis les compagnons jusqu'aux derniers hommes, jusqu'à la fin du troisième siècle. On a vu aussi par la suite quelques anecdotes légères décrivant leurs qualités particulières, notamment dans le contexte de l'adoration. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas citées. « وَمَا ذَكَرْنَاهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرٍ وَفَيَّضٌ مِنْ غَيْرٍ » Et ce qu'on a cité, c'est une goutte dans un océan par rapport à ce qu'il reste à découvrir de leur part. لذلك نحث أنفسنا وإخوتنا أن يقتنوا هذه الكتب، كتب التراجم والسير، وأن يكثروا من القراءة فيها، ففيها الخير الكثير والنفع العظيم، وبهذا تشحذ الهمم لبلوغ القمم. يقال حس الذباب يذهب بالذباب. حتى انا مشيت معكم. المهم انا قلت نعم كنت انصح نفسي واياكم باقتناء هذه الكتب العظيمه التي فيها ذكر انباء الصالحين من قبلنا، والعنايه بقراءتها جدير أو جديرة بالاهتمام، وتثمر في القلوب حبهم وكذلك تشحذ الهمة، فيريد المسلم أن يكون مثل هؤلاء الطيبين الصالحين. Donc il est important, je vous conseille et recommande, de posséder, d'acquérir les livres, les ouvrages de biographie et d'histoire dans lesquels on trouve les histoires, les anecdotes, les récits de ses pieux prédécesseurs. De les acheter, de les posséder, que vous les trouviez et que vous lisiez beaucoup dedans. Multipliez la lecture de ces récits, afin que dans le cœur du croyant pousse et se développe l'amour de ces hommes-là, et celui qui aime quelqu'un, il aime à lui ressembler. Et donc nous, ce soir-là, on va parler du Coran et de la Sunna. Le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la Sunna sont les deux sources vers lesquels les musulmans reviennent en général. Et en général, ils ne divergent pas sur le fait que les deux sources dans lesquelles on trouve les lois d'Allah Azza wa Jal sont le Coran et la Sunna. Sauf un groupe qu'on appelle à tort les Qur'aniyoun, en référence au Coran. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, nous, on prend que ce qu'il y a dans le Coran, on ne prend pas la Sunna. وهؤلاء كفار. Et ceux-là ليسوا مسلمين. Ils sont pas musulmans, ils sont kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة هي السنة. C'est lui, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a envoyé parmi les illettrés un prophète venant d'entre eux qui les purifie. Il leur récite ces versets, les versets d'Allah Azza wa Jal, il les purifie et il leur enseigne le livre et la hikmah, qu'on traduira par la sagesse. Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi disait qu'il s'agissait de la sunnah. يعني لا تحصل التزكية إلا بتعلم الكتاب والسنة. On ne peut se considérer pur que lorsqu'on aura appris le Coran et la Sunna. Donc eux ils viennent et ils disent il n'y a pas de Sunna. Tous les hadiths là c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Nous on prend que le Coran. Alors que dans le Coran Allah il nous ordonne de revenir dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ففي إنكارهم للسنة تكذيب للقرآن والتكذيب للقرآن كفر أكبر. Et celui qui, donc il y a dans le fait de renier la sunna, un démenti du Coran, et celui qui dément le Coran a certes mécru. Donc ils nous disent, non, nous on prend que le Coran, on ne prend pas la sunna. Et en disant cela, ils n'ont fait que prouver leur sottise et leur stupidité, et le moins faible, et à quel point ils n'ont absolument rien compris du Coran auquel ils prétendent s'accrocher. Demande à l'un d'entre eux qu'il te montre dans le Coran, dans tous les versets qui s'y trouvent, de te ramener un verset dans lequel Allah Jalla wa Ala nous parle du nombre de raka'at qu'il y a dans chaque prière obligatoire. Prouve-moi un verset dans le Coran, toi, où tu sais que l'asr, on doit faire 4 raka'at dedans. Ou bien que le maghreb, on doit en faire 3. Ou bien que le fajr doit en faire 2. Au moins dans le Coran, un verset dans lequel Allah Ta'ala nous dit sur quelle catégorie de biens la zakat est-elle obligatoire? Et à partir de combien de temps? Et combien doit-on sortir comme zakat? Trouve-moi dans le Coran un verset qui nous dit combien de tours on doit faire autour de la Kaaba. Ou bien combien de temps on doit rester à Arafat ou à Muzdalifa, ou encore qu'est-ce qu'on peut égorger le jour de l'Eid, et d'autres questions qui sont très nombreuses et auxquelles ils sont absolument incapables de répondre. Soit ils te disent je sais pas,
Alors là, il te montre à quel point il a compris du Coran. Ou soit il te dit, non, tout ce que tu demandes, c'est dans le Coran, mais c'est caché et on ne peut pas le comprendre. Et Allah Jalla wa Ala, أجل من أن يخاطب عباده بكلام لا يفهموه أو لا يفهمونه. الله عز وجل est trop parfait pour s'adresser à ses serviteurs d'un discours qu'ils ne comprennent pas. الله جل وعلا nous dit ومن أصدق ومن أحسن من الله حديثا. Qui s'exprime mieux qu'Allah جل وعلا. Donc comment Allah سبحانه va faire ses propres louanges et éloges en disant que personne ne s'exprime mieux que lui, c'est-à-dire que personne ne s'exprime plus clairement que lui pour qu'il nous parle avec des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas trouver dans le Coran. هذا كله غلط وخطأ فاحش. Une énorme faute et une énorme erreur qui est de la grande mécréance. On a aussi الروافض, hein, les ancêtres des Shia, qui nous disent non, la Sunna elle existe, mais le problème c'est qui la rapporte. Parce que nous, à la Sunna wal Jama'a, reconnaissons chez tous les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur véracité et leur piété, ce qui n'est pas leur cas. Eux ils disent non, après la mort du Prophète alayhi salatu wassalam, il y a des compagnons qui ont mécru, d'autres qui sont hypocrites et ainsi de suite. Et pour eux, les hypocrites et les menteurs et les mécréants, c'est Abu Bakr et Omar. Donc si eux deux, radiyallahu anhum, c'est des hypocrites et des menteurs, qu'advient-il du reste, wal'iyadu billah? Khiyar hadihi l'umma, kaffarouhuma, wa kazzabouhuma, wa ja'alouhuma fi saffil munafiqin, wal'iyadu billah. Les meilleurs de cette communauté, ils les ont traités de menteurs, ils les ont taxés de mécréance, et ils les ont rangés dans le rang des hypocrites. Alors, le plus étrange dans tout cela, c'est qu'ils ont des livres de hadith où il n'y a pas de sanad, il n'y a pas de chaîne de transmission, ou bien leur chaîne de transmission entre le premier rapporteur et le prophète, soi-disant il y a un trou de 200 ou 300 ans. Et après, à nous, ils nous reprochent de prendre des compagnons. Al-Muhim, à part cela, la kassarahum Allah, en général les musulmans sont d'accord pour dire qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna obligatoirement. Mais là, il y a un problème. C'est que si tout le monde est d'accord qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna, comment se fait-il qu'il y ait autant de divergences chez les musulmans? Pourquoi lui dit oui et l'autre il dit non? Pourquoi lui dit halal et l'autre il dit haram? Pourquoi l'autre il dit wajib et l'autre il dit makruh? Pourquoi l'autre il dit c'est licite, l'autre il dit ça ne l'est pas? Pourquoi lui il dit c'est obligatoire et l'autre il dit c'est détestable? C'est problématique. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous interdit de nous diviser et de diverger. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit parvenue la preuve évidente. Et certes, ceux-là auront un châtiment terrible. Et il nous parle des gens du livre avant nous, qui se sont divergés. Qui ont divisé et qui ont divergé. Et il nous interdit de faire comme eux. Et il nous ordonne, subhanahu, de nous cramponner à son lien, à sa corde, qui est le Coran, et qui est sa religion. Il nous ordonne de nous y cramponner. Tout comme on va le voir après dans le hadith de l'Irbad ibn Sariyat radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alaykum bi sunnati, وسنة الخلفاء الراشد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Quand je dis عليه الصلاة والسلام, suivez obligatoirement ma sunna ainsi que celle des califes, des successeurs, bien guidés et bien dirigés après moi. Mordez-y avec un nawajid. Un nawajid هم أقصى الأضراس. الأضراس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتقدمة وهي الظاهرة عند الضحك تسمى الضواحك، وأما الوسطى هي التي تستعمل في طعم المأكولات تسمى الطواجي، والأواخر أو الأخريات وهي الأقصى سمى النواجذ عضوا عليها بالنواجذ وهي أقواها هي أقصى الأضراس وهي أقواها كذلك فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأضراس ليس صدفة وإنما هو اختيار مناسب لأن السنة أنت مأمور بأن تعتصم بها وبأن تتمسك بها بكل ما تملكه من قوة ثم يأتي أقوام يريدون نزعها منك ولا يريدون أن ينظروك وأنت ملتزم لها فيحاولون سحبها منك فاشدد عليها بكل ما تملكه من قوة Donc la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous y accrocher le plus possible. Il a dit « Suivez ma sunna, accrochez-vous obligatoirement ainsi que celle des califs bien guidés. » Il dit « Mordez-y à pleines dents », on traduit en français comme ça, mais la traduction précise est la meilleure. Il dit encore le mot « nawajid », et « nawajid » ce sont les molaires les plus lointaines. On a trois groupes de molaires. On a celles qui apparaissent lorsqu'on rigole, on appelle az-zawahik. On a celles qui sont employées pour écraser les aliments, on les appelle at-tawajin. Et on a les plus lointaines qui sont an-nawajid, entre guillemets les dents de sagesse. Ce sont les dents les plus lointaines, les molaires les plus lointaines, et ce sont aussi les plus fortes et les plus puissantes. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait choisi ces dents-là par rapport aux autres n'est pas fait au hasard. Il a fait référence aux dents les plus fortes pour montrer à quel point on doit s'accrocher à la sunna et on ne doit pas la délaisser. Et que comme le prophète a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on m'a donné le Coran et son équivalent avec. Et le Coran et la sunna sont tous les deux une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors dans le Coran ordonne à ce qu'on suive la sunna à de nombreuses reprises. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Et on a fait descendre sur toi الذِّكْر, le rappel. Dans quel but? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Afin que tu mettes en évidence, que tu montres aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Ce qui est descendu sur eux. Donc dans ce verset, il y a deux choses qui sont descendues. La première, elle a pour but de mettre en évidence la seconde. Et la première c'est la sunna, la seconde c'est le Coran. Donc on doit s'accrocher absolument à la sunna. Avec ses dents. Parce que ce sont les plus fortes. Donc on doit s'y accrocher de toutes nos forces. Et en même temps on doit s'y accrocher fortement parce qu'il y aura toujours des gens qui tenteront de te l'enlever. Alors mords-y le plus fort possible pour que personne n'arrive à te séparer d'elle. Donc ces gens, le Qur'aniyoun, qu'ulna, hum fi dalal, bel fi kufr, wa rawafidhu kadalik. Maintenant, qu'on sait qu'il faut revenir au Qur'an, et qu'il faut revenir à la sunna, au sunna, ma'naha, al-tariqa. Le sens du mot sunna, c'est la voie. Wa fi istilah al-shar' huwa أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته sont les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم ses actes ainsi que ce qu'il a acquiescé ce qu'il a accepté des autres c'est ça la sunna ça c'est عند الإطلاق après chez الفقهاء ça a un autre sens c'est هما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه ها وضابط المكروه لا شتلي المهم c'est le la sunna chez les savants de la jurisprudence c'est l'action qui lorsqu'elle est accomplie avec l'intention d'obéir à Allah on est récompensé et lorsqu'on la délaisse on ne mérite pas le châtiment Zaid ibn Nas تهضر معاه في بعض الأشياء يقول لك هذا سنة هذا سنة، ويستعمل ألفاظا لا يعلم ولا يدرك معناها. Il emploie des mots dont il ignore et ne comprend pas le sens. Si on nous demande de nous expliquer le sens du mot sunna, tu vas dire que c'est ce vers quoi il faut revenir. Et les musulmans en général, ils sont d'accord avec ça. Et pourtant, quand on est en France, on entend bleu. Quand on est en Belgique, on entend blanc. Quand on est en Allemagne, on entend vert. Quand on est au Maroc, on entend jaune. Quand on est en Algérie, on entend toutes les couleurs possibles dans tous les pays où les musulmans se trouvent. Et tous ces musulmans-là disent nous, on veut un Coran à la Sunna. Il y a un problème. Ce problème, il vient d'où ? Il vient que chaque personne, du moins beaucoup de personnes parmi les musulmans, comprennent le Coran comme ils le veulent eux. Et comprennent la Sunna comme ils le veulent eux. Ils se disent qu'ils ont droit de réfléchir à ces choses-là. Et qu'ils ont droit, eux, de comprendre ces textes-là. Et qu'ils ont le droit, eux, de déduire les jugements s'y trouvant. Et ceci est une erreur. Et quand chaque personne se permet de comprendre le Coran et la Sunna comme il l'entend, on se retrouve à la fin avec des divergences. On se retrouve à la fin avec des divisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Comme il a été rapporté d'après Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawood wa ghayrihim wa ghayruhum an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية أخرى صحيحة قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاء عليه الصلاة والسلام les juifs se sont divisés en 71 branches. Les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Et ma communauté se divisera en 73 branches. Ils sont tous en enfer, sauf une, parmi ces 73 branches. Les sahaba radiallahu anhum, ils ont peur, ils disent, c'est qui ya Rasulallah? Il répond, c'est Al-Jama'a, le groupe. Ibn Mas'ud radiallahu anhu yaqul, Al-Jama'a man wafaqa al-haqqa wa in kana wahdah. Al-Jama'a, le groupe, c'est celui qui est en accord avec la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui le jama'a. Lesh, pourquoi? Parce qu'il est en accord avec la vérité. Wa khatim bu'adou. La tartar bil kathra. Ma dgoulch al-haq ma al-kathra. Na. Wa illa, la kana al-kufru haqqa. أليس الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون آية أخرى في هذا الباب ويمدح القلة يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وغير ذلك من الآيات أو قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال الله تعالى في référence à la majorité. Ne te fais pas avoir par la majorité. Ne te dis pas que si tout le monde fait ça, c'est forcément c'est vrai. Non, c'est une erreur. Dans le Coran, de nombreuses fois, Allah Ta'ala, il fait les reproches de cette majorité en disant la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne comprennent pas, ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas. Et il fait aussi référence, il dit, si tu obéis à la plupart des gens qu'il y a sur terre, ils te garderont du droit chemin. Et il fait les éloges de cette minorité qui suit le droit chemin. Et qui dit, Allah Azza wa Jalla dit, sauf ceux qui croient et font des actions pieuses, et qu'est-ce qu'ils sont peu. Ou bien il dit, en parlant de ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam, et en général les prophètes, il dit, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et n'ont cru avec lui que très peu de gens. Et il dit, en parlant des serviteurs d'Allah reconnaissants, et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc la minorité n'est pas un signe de fausseté, tout comme la majorité n'est pas un signe de vérité. Là. Donc, al-jama'a man wafaqa al-haqqa wa in kana wahdahu. Celui qui est en accord avec la vérité même s'il est tout seul. Et dans notre version du hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, quand il dit que 73 groupes se formeront dans cette communauté, les musulmans, et qu'ils iront tous en enfer sauf une, il a dit, c'est ce groupe sur lequel je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc là dans ce hadith, on a un signe clair que ce groupe sauvé de l'enfer, que ce groupe rescapé de l'égarement et de l'innovation sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme dans le verset qu'on a cité dans un cours précédent, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين. Les premiers à avoir devancé parmi les émigrants, les Mécois, والأنصار et les Médinois, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, بإحسان. Et chez النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. الرعيل الأول والجيل الأمثل. La meilleure génération et le meilleur des siècles. Et dans le hadith al-Irbad ibn Sariya رضي الله عنه المتقدم أو المتقدم الذكر يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعيش منكم وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وخلالهم جميع الأمة فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vivra parmi vous, Fatidia alayhi salatu wassalam, dans le hadith qu'on a cité précédemment, il verra beaucoup de divergences. C'est comme si quelqu'un il demandait, qu'est-ce qu'on doit faire alors, ya Rasulallah? Il a répondu, suivez ma sunna et celle des khulafa al-rashidin. Al-khalifa, ça vient du mot khalaf, qui veut dire venir après. Quand le Rasul a dit khalifa, al-khulafa, il a fait référence à ceux qui viennent après lui. Après sa mort, c'est donc les sahaba, les tabi'in et les atba' tabi'in. Comme dans le hadith précédent, celui de, dans lequel le prophète nous dit que les meilleurs des gens sont les trois premiers siècles. Donc on comprend à travers ces textes que le Coran et la sunna ne doivent être compris que comment les pieux prédécesseurs l'ont compris. Nafhamu khilala hadhihi an-nusus الشرعية الصحيحة الصريحة أنه لا يفهم القرآن والسنة إلا كما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. On comprend dans ce texte qu'on ne peut comprendre le Coran et la Sunna que comment l'a compris les pieux prédécesseurs. Et dans le Coran, Allah il fait référence à cela dans de nombreux versets. مثلا قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui fait scission, qui se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui soit parvenue, et suit un autre chemin que celui des croyants. من هم المؤمنون في زمن نزول القرآن الصحابة رضي الله عنهم. Qui sont les croyants lorsque le Coran il est descendu, il est révélé? Ce sont les صحابة رضي الله عنهم. Donc ici ويتبع غير سبيل المؤمنين, qui suit un chemin autre que celui des croyants, ça fait référence aux صحابة رضي الله عنهم. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. S'ils croient dans ce en quoi vous vous croyez, alors ils seront bien guidés. Alors ils se seront guidés. Donc Allah Ta'ala, il fait référence à la croyance des musulmans qui sont présents lorsque le Coran il est en train d'être révélé. Et ce sont les sahaba radiyallahu anhum. Et donc là encore on voit que tu ne peux avoir la foi correcte que si elle est en conformité avec celle des sahaba radiyallahu anhum. La yasihu i'tiqaduk illa bima i'taqadahu as-sahabatu radiyallahu anhum. Tu ne peux pas avoir une bonne croyance si elle n'est pas en conformité avec celle des sahaba radiyallahu anhum. D'ailleurs on remarque dans le Coran, on remarque à Afwan que juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les groupes ont commencé à apparaître. Le Khawarij, le Rawabid, le Qadariya, le Murji'a, le Mu'tazila, le Asha'ira, le Jahmiya, كل هذه الطوائف بدأت تظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث استقل كل واحد من مؤسس هذه الفرق برأيه وأبى أن يرجع إلى فهم السلف لنصوص القرآن والسنة. Ces groupes-là qu'on a cités ont commencé à apparaître après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque chacun des fondateurs de ces groupes s'est senti épargné de revenir à la compréhension des plus prédécesseurs du Coran et de la Sunna. Donc chaque fois que quelqu'un a refusé de soumettre sa compréhension à celle des plus prédécesseurs, il a été à l'origine d'une nouvelle innovation qui a été à l'origine d'un nouvel égarement. Les sahaba radiallahu anhum kama dhakarna qabla qalil humul hadirun عند نزول القرآن. الصحابة رضي الله عنهم sont ceux qui sont présents quand le Coran est révélé. بل بعضهم تشرف بكتابة هذه الآيات في الصحف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Même certains d'entre eux ont eu l'extrême privilège et l'immense honneur d'écrire ces versets dans des parchemins lorsqu'ils étaient révélés. Certains parmi eux, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ce qu'on revienne vers eux pour le Coran, comme Abdullah ibn Mas'ud. Et qu'aulihi sallallahu alayhi wa sallam, an arada an yaqra al-Qur'an ghadran tariyan kama unzil, fal yaqra ala qira'ati ou bi qira'ati ibn ummi abd. Celui qui veut lire le Coran purement, parfaitement comme il a été révélé, qu'il lise comme lit Abdullah ibn Mas'ud, qui est connu aussi sous le nom de Ibn Ummi Abd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu et lui dit: Inna Allah amarani an aqra'a alayka surat al-bayyinah. Faqala Ubay radiallahu anhu: Hal sammani Allah? Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Na'am. Thumma baka Ubay radiallahu anhu wa huqqa lahu an yabki. Quand il a dit à Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu: Allah m'a ordonné de réciter sur toi, de te lire la sourate al-Bayyinah. Alors Ubay radiallahu anhu dit: Ya Rasulallah, est-ce qu'Allah il a prononcé mon nom? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond oui. Alors Ubay radiallahu anhu se met alors à pleurer. Et il avait bien raison. Et les hadiths montrant la supériorité des sahaba radiallahu anhum sont très nombreux. Et le Coran, comme vous le savez tous, nazala bi lisanin arabiyin mubin. Fi wasafi qawmin balagu fi itqani tilka al-lugha al-ghaya wal-qimma. Le Coran est arrivé en arabe dans un peuple qui ont atteint le summum dans la maîtrise de cette langue. Wa man lam yadulluka ala dhalik أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم قلت في بيان معاني القرآن مما يدل على أنهم فهموه فهما صحيحا. Qu'est-ce qui t'indique que les sahaba رضي الله عنهم ont bien compris le Coran en arabe? C'est le peu de textes qui font référence à des questions de la part des sahaba رضي الله عنهم sur le sens d'un mot se trouvant dans un verset. On en trouve, comme مثلاً dans surat An-Nazi'at, وَعِنَبَا وَقَضْبَا وَزَيْتُونَا وَأَبَّا. Nazi'at a dit ou la Abasa? La Abasa, barakallahu fik. وَزَيْتُونَا وَأَبَّا. L'Ab, هنا, عمر ما فهم المعنى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الحب. Donc ce mot-là, Ab, Omar n'a pas compris le sens. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va expliquer qu'il s'agissait de du grain. كذلك هناك رواية كم قد سورة يوسف قال الله تعالى إذي وآتت لكل واحدة منهن سكينا بعضهم ما فهموا المعنى السكين سورة يوسف قال الله إذي cette femme a donné à chacune d'entre elles celles qui sont venues la voir chez elle à chacune un سكين un couteau et à Mecca ils n'employaient pas le mot سكين pour dire couteau. Et ce mot-là, ils ne l'ont pas compris se demander. Ça veut dire quoi ces textes-là? Ça veut dire que les sahaba radiallahu anhum, s'ils ne comprenaient pas quelque chose dans le Coran, eh bien, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans la sunna, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, wa yantiqu fihim, ou, fi ma'na al-hadith, comme a parlé le Nabi alayhi wa sallam, la yakunanna fi ummati sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib. ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويكثر وينطق فيه الرويبضة قالوا يا رسول الله ما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في شؤون الناس وجدنا الحديث عليه الصلاة والسلام il viendra dans ma communauté des années traîtresses dans lesquelles on croira le menteur et on traitera de menteur le véridique. Et on fera confiance au traître. Et on considérera traître la personne de confiance. Et parlera parmi eux al-Ruwaïbida. Ce mot-là, les sahabas, ils n'ont pas compris. Se dire à Surah, c'est quoi al-Ruwaïbida? Il a répondu, c'est l'homme bête, perdu, qui ne connaît rien de ce qui se passe et qui parle pour les gens. Et dans de nombreux hadiths, les sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils ne comprenaient pas le sens d'un mot, demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ne demandaient pas l'explication d'un mot, ça veut dire qu'ils le comprenaient. D'ailleurs, les savants du tafsir nous disent que le Coran, أول ما يرجع إليه في فهم الآيات, القرآن نفسه. فإذا استطعنا أن نوضح معنى آية من كتاب الله بآية أخرى فالواجب الرجوع إليها. Dans le tafsir du Coran, on dit la première des choses vers laquelle on doit revenir pour comprendre le sens d'un verset, c'est le Coran lui-même. Si on trouve un verset qui explique un autre verset, alors on doit y revenir obligatoirement. Car Allah subhanahu sait mieux que quiconque le sens de sa parole. فإن لم نجد في القرآن بغيتنا عدلنا إلى السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد كلام الله جل وعلا. Si on ne trouve pas dans le Coran ce qu'on recherche comme explication d'un verset, on retourne à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, car le prophète صلى الله عليه وسلم est la personne qui connaît le mieux le sens de la parole d'Allah. فإن لم نجد في السنة ركننا إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا حاضرين عند نزول القرآن وهم أولى الناس بفهمه وشرح معانيه. Si on ne trouve pas dans la sunna ce qu'on recherche, on retourne vers la parole des sahaba رضي الله عنهم, car ce sont ceux qui étaient présents lorsque le Coran a été révélé et ils sont les prioritaires dans l'explication de ses sens. Donc, les meilleurs de ceux qui ont compris le Coran sont ceux qui étaient présents lorsqu'il était révélé. Et de plus, la science chez eux était beaucoup plus simple d'accès et était aussi beaucoup plus simple à comprendre. Beaucoup plus simple d'accès parce qu'ils n'avaient pas l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux. Pas comme nous, dans lesquels, quand on va dans un hadith, on a 5-6 personnes entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous. Et donc les savants rahmatullahi alayhim ont développé une science qu'on appelle ilm al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et l'éloge, à laquelle on est obligé de revenir pour savoir l'état des rapporteurs. هل هذا تقبل روايته أو لا فإن ثبتت ثقته قبلنا روايته وإلا رددناه. S'il a été prouvé que ce rapporteur il est fiable, on accepte son rapport. Sinon, on le rejette. Eux c'était direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait directement. Donc ils n'ont pas eu besoin de connaître cette science de jarh wa ta'dil. Elle ne les concerne pas. Pareil avec usul-fiqh. Usul-fiqh, les fondements de la jurisprudence, ces règles qui nous apprennent à distinguer le texte général du particulier, le texte global du conditionné, le texte abrogeant et le texte abrogé, j'en passe, et d'autres, de ce qu'on apprend dans usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, science qui fut développée par la suite, lorsque s'est développée aussi la science de la philosophie, si on peut appeler ça science, voilà, isal amru kadalik, et qui a égaré les gens. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin de savoir ça non plus. Donc, elle était plus simple d'accès et plus facile à comprendre. Donc, ils étaient présents lorsque le Coran a été révélé. Ils ont assisté en direct à sa révélation. Et des fois même, ils étaient présents lors de la cause du verset. Lors de la cause de la révélation du verset. Tout comme on voit dans de nombreux hadiths où les sahabas nous disent ce verset il a été révélé pour telle situation, pour telle cause, pour tel événement, car ils étaient présents à ce moment-là. Comme quand les juifs ils ont été voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lui ont dit il y a un verset dans notre livre, si on l'avait dans la Torah, on aurait fait du jour de sa révélation un jour de fête. Il leur a dit de quel verset vous parlez. Ils ont dit le verset où Allah dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Le jour où j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits, j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il leur a dit, radiallahu anhu, je sais ce verset, il a été révélé quand, il a été révélé où? Il a été révélé le jour de Arafat, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage d'adieu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé, et pourquoi il a été révélé. Et si jamais je savais que quelqu'un connaît le Coran mieux que moi, et je peux l'atteindre à dos de cheval, et bien j'y serais allé. Et le prophète a dit, alayhi wa sallam, à Ibn Mas'ud, « Raditu li ummati ma radiya laha Ibn Ummi Abd. » J'ai agréé pour ma communauté ce que Ibn Ummi Abd a agréé pour elle. Ce qui montre la supériorité des sahaba radiyallahu anhum sur tout le reste de la communauté. Et on a dit tout à l'heure que des groupes ils ont commencé à apparaître. Chaque groupe il vient et dit non, c'est nous la raison, c'est nous qui avons raison. Et parmi eux, il y en a qui ont carrément combattu les compagnons, comme Al-Khawarij. Ces gens-là, qui à la base considèrent la personne qui accomplit un grand péché, mécréante. Et pour eux, cette personne-là, elle est éternellement en enfer. Et à cause de cela, ils se sont rendus leur licite le bien des musulmans ainsi que leur sang. Et ils ont fait couler le sang. Et ils sont venus en prétendant qu'ils comprenaient le Coran mieux que les sahaba radiallahu anhum eux-mêmes. Et le prophète il a dit en parlant d'eux, يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقوتهم أو حناجرهم لا يجاوز حناجرهم. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur gosier. Il n'ira pas plus bas que leur gosier. Ça veut dire qu'il n'atteindra pas leur cœur et ils n'en comprendront rien. Ils n'en comprendront rien. Zaharat fihim, yani fi sahaba aydan, firqat al-Qadariya. Aussi, le groupe de l'Qadariya, ceux qui ont commencé à réfléchir sur le Qada ou al-Qadar, ils ont dit non, l'être humain, il est indépendant dans ses actes. Allah Ta'ala il n'a rien à voir avec. حَدَ ذَهَبَ غُلَاتُهُمْ أَوْ ذَهَبَتْ غُلَاتُهُمْ إِلَىٰ أَنْ قَالُوا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُهُ الْعِبَادُ حَتَّى يَفْعَلَهُ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Même parmi eux, certains qui ont été jusqu'à dire qu'Allah il ne sait pas ce que ces créatures font tant qu'ils ne l'ont pas fait. Et les sahaba radiallahu anhum qui étaient vivants à leur époque, comme Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, se sont désavoués d'eux et ont montré à quel point ils étaient égarés. Wal murji'a, ceux qui voient que la foi, le fait de reconnaître qu'Allah il est le Seigneur méritant l'adoration suffit. Et que même si on fait des grands péchés, ça ne fait pas baisser la foi. Et les exemples sont nombreux. كل واحد تابي فكرة بنى على تلك الفكرة عقيدة واخذ الناس يتبعونه ويرون أن الحق معه. Chacun d'entre eux sont venus avec une idée. Ils l'ont développé jusqu'à ce que ça donne une croyance. Et voici que les gens se sont mis à les suivre dans ces innovations-là. Quelle est la cause de ça ? Et c'est le sabab de cela. أنهم أبوا أن يرجعوا إلى فهم السلف للقرآن والسنة. Tout cela parce qu'ils ont refusé de revenir à la compréhension des plus prédécesseurs dans le, du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui aussi, on a encore plein de groupes qui se forment, qui s'inventent et qui apparaissent. Et c'est toujours la même chose. Et toujours ils viennent avec des nouvelles choubouhats, des nouvelles ambiguïtés. Mais ma nasma'ouf, annannas, al-an, ya'ishuna fi asrin mutaqaddim wa mukhtalifun tama, ou mukhtalifin tamaman amma kana alayhin nasu min qabl. Fala nahtaju ila fahmi s-salaf. بل نحتاج إلى فهم جديد يواطئ زمننا ويناسبه. On entend des gens qui nous disent on vit une époque différente. Les gens ont évolué. Les mœurs ont évolué. On vit un moment complètement différent de ceux des gens d'avant. On n'a plus besoin de la parole des plus prédécesseurs. Il nous faut à nous une bonne parole. Une meilleure compréhension. حتى سمعنا بعضهم يشرح القرآن أو يفسر القرآن بالاكتشافات العلمية الحديثية أو الحادثية مثل قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. يقول هذا أن معنى قوله طبقا في الآية الصواريخ التي ترتفع في أطباق السماء ترون أن الأجزاء التي تتركب منها ينفصل بعضهم عن بعض حتى يبقى رأس هذا الصاروخ في الفضاء والباقي يرجع إلى الأرض طبقا عن طبق. هكذا فسر قوله تعالى. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. فبالله عليكم عباد الله ماذا نأخذ؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أو تفسير هذا الشيخ على زعمه لهذه الآية. On a un sheikh, soi-disant, qui est venu interpréter le Coran avec les découvertes scientifiques récentes, contemporaines. Le verset Allah tabaraka wa ta'ala nous dit la tarkabuna tabaqan an tabaq. Vous allez passer d'étape par étape. Tabaq يعني حال مرحلة. Une étape, un état. Lui dit non, ça ne veut pas dire ça. Ça fait référence aux fusées spatiales qui s'élèvent dans les couches célestes. Pourquoi ? Parce que la fusée spatiale, elle est composée de plusieurs parties. Et lorsque la fusée s'élève dans le ciel, eh ben, tu vois que les parties de la fusée, ils se décomposent et chaque partie, elle tombe pour laisser place seulement à la navette qui, elle, reste dans l'espace. Donc lui, il dit que le Coran, il veut dire ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le verset en disant tarkabuna tabaqan an tabaq yani halatan ba'da ukhra aw marhalatan ba'da ukhra tufula ba'daha rujula ba'daha shaykhukha ba'daha mamat. Enfance après âge adulte après vieillesse après mort. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset. Donc je vous pose la question mes frères, vers qui doit-on revenir pour comprendre ce verset? Ce shirk qu'on appelle Shir, malgré l'absence de science dans ses propos, ou le prophète, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Et subhanallah, najid fi hadhihi al-tawa'if al-jadida, wa kadhalikum allati ja'at qablaha, dhuhur ayatin min ayatin nubuwa. Li'an ibn Abdil Barr rahmatullahi alayhi yarwi an Hudhayfa radiyallahu anhu أو عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من الحديث ويلعن آخر هذه الأمة أولها ويلعن أول آخر هذه الأمة أولها. ونسمع من هؤلاء المتقدمين بين قوسين وهم في الحقيقة متخلفون، نسمعهم يلعنون بلسان الحال أو أحيانا بلسان المقال الصدر الأول من هذه الأمة، ويقولون لا حاجة لنا فيهم فنحن رجال وهم رجال، هكذا يقولون، مع أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يقولون لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أمر أولها، هذا قول السلف، يريدون الخير والنفع للأمة فيرشدونهم إلى ما فيه الخير لهم، وأما الخلف يسبون ويلعنون أسلافهم الأولين، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ Donc on a aujourd'hui dans ces groupes nouveaux, même chez certains anciens, la concrétisation d'un signe de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Hadith, il a dit que les derniers de cette communauté maudiront les premiers. Les derniers de cette communauté maudiront les premiers. Et on entend ça des fois dans la bouche de ces soi-disant les porte-paroles de ces nouveaux groupes, comme quoi ils critiquent et insultent les compagnons radiallahu anhum. On trouve ça même dans leurs livres, dans leurs ouvrages. Des fois tu vois des gens qui s'accrochent à des livres dans lesquels on trouve des catastrophes immenses et des insultes directes aux compagnons radiallahu anhum. Muawiya, Amr ibn al-As, Uthman ibn Affan, et bien en trouvant des livres, c'était des anadiqas, ou bien des fasaqas, ou bien des voleurs, ou bien des hypocrites, voire même des mécréants, al-iyadu billah. Et tu vois ces livres, Mu'azzama, tu vois ces livres qui sont adulés et dans les plus hautes étagères de beaucoup de mosquées. Et les gens, ils font les éloges de ces livres-là sans savoir ce qu'ils contiennent. Yal'anouna awwala hadihim. Ils maudissent les premiers de cette communauté. Ils les détestent. Alors que les premiers de cette communauté, au contraire, eux, ils voulaient le bien pour cette communauté en général. Et ils disaient, rahmatullahi alayhim, la fin de cette communauté ne sera bonne et droite que comme l'a été la première partie de cette communauté. Donc ils sont en train de nous dire à travers cette parole-là, à nous qui venons des siècles après eux, vous voulez être bien, eh bien, faites comme les premiers ils ont fait, et vous serez bien. Si vous choisissez un autre chemin que celui-ci, vous ne réussirez jamais. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme on l'a dit tout à l'heure, décrit les sahaba radiallahu anhu et nous explique pourquoi il faut revenir à eux et pourquoi il faut comprendre, prendre leur compréhension du Coran et de la Sunna. Il nous dit radiallahu anhu, man kana mustanna falyastanna biman qadmat. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit que celui qui veut prendre exemple sur quelqu'un, que celui qui veut prendre comme modèle quelqu'un, que celui qui veut choisir, suivre le chemin de quelqu'un, qu'il prenne le chemin de ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation, car le vivant n'est pas à l'abri de l'épreuve. De quel âge s'agit-il? Il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont le cœur le plus pur dans cette communauté. Ceux qui ont la science la plus profonde. Et ceux qui ne se forçaient pas. C'était pour eux naturel. un peuple qu'Allah Ta'ala a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour dresser sa religion. Alors reconnaissez leurs droits et accrochez-vous à leur guidée, car certes, ils étaient sur une voie droite. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu toujours a vu un groupe de personnes dans une mosquée en cercle, et dans le centre de ce cercle-là un homme, et chacun d'entre eux avait des pierres devant lui. Et cet homme qui était au centre du cercle leur disait, dites Allahu Akbar 30 fois. Alors il prenait les cailloux, il comptait 30 fois et il disait Allahu Akbar. Après il leur disait, dites Subhanallah 30 fois, et il faisait ainsi. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il est venu et il s'est énervé. Il leur a dit, soit vous êtes plus guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Hein? Soit vous êtes plus guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Allah dit dans le Coran, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalal mubin. Et nous ou vous, on est soit dans la guidée, ou soit dans un égarement manifeste. Il n'y a pas 36 voies. Il n'y en a que deux. Al-Haq ou Al-Batil. Al-Huda ou Al-Dhalal. Famada ba'd al-Haq illa Al-Dhalal. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a que deux. La vérité et le mensonge. La guidée et l'égarement. Ma fiche dans l'Excel. Il n'y a pas une troisième voie. Et pour être sur la voie de la guidée et la voie de la vérité, tu ne peux pas te passer de la compréhension des Sahaba radiallahu anhum, de la compréhension des Salaf al-Salihin. Il y a des choses que personne minas Salaf n'a jamais faites. Les gens aujourd'hui viennent, yu'azzimunaha wa yaj'alunaha min ad-din wa ma anzalallahu biha min sultan. Ala sabil al-mithal, ish al-ihtifal bil mawlid al-nabawi. Yaqulun hada ish idhar li mahabbatina li nabi sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك ايش نغتنم الفرصه ونستغلها لذكر سيرته ولكذلك لانشود لانشاد الامداح الى اخره. لكن بالله عليك انظروا في هذه القرون واتوني بامام في هذه القرون الثلاث ممن يقول بان هذا العمل فيه خير او بان هذا العمل مستحب ومطلوب وفيه أجر أو ما أشبه ذلك. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما ذكر أحد منهم شيئا من ذلك. فأتونا بآية أو حديث أو دليل صحيح صريح واضح يبرر فعلتكم هذه. فإما أن تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة والسلف وهذا مستحيل، وإما أن تكون على ضلال مبين وهذا أقرب. C'est comme tu vois aujourd'hui de ceux qui fêtent la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils disent soi-disant qu'ils font cela dans le but de montrer l'amour qu'ils ont envers le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils disent que c'est une occasion pour se rappeler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous leur demandons qu'ils nous ramènent un imam dans les trois premiers siècles de cette communauté qui a dit que c'était une bonne chose, qui a dit que c'était une action méritoire dans laquelle il y avait beaucoup de récompenses. Qui nous ramène une parole d'Abu Hanifa ou bien de Malik ou bien de Shafi'i ou bien de Ahmad. Tu remarques les gens, ils vont te dire, moi je suis Ahnaf, je suis Hanafi, ou bien je suis Maliki, ou bien je suis Shafi'i, ou bien je suis Hanbali, sauf dans les choses qui l'arrangent. Sauf dans les choses qui l'arrangent. Maintenant, ceux qui disent je suis Maliki, quand on leur dit l'imam Malik, rahimahullah, ils ne voyaient pas Jawaz, Ikhraj, Zakat al-Fitr, Naqdal. Ils te disent, ouais, mais Abu Hanifa, il dit Yajouz. Et Omar ibn Abdelaziz, il dit Yajouz aussi. Ouais, mais je crois que t'es Maliki. Ah, enfin, c'est quand tu veux en fait. Quand on leur dit que l'imam Malik il interdit à ce que Zakat al-Fitr soit sorti en argent, il dit qu'il doit obligatoirement être sorti en nourriture, et que si les taxes sur l'argent n'est pas accepté, ils te disent non, mais en fait, je suis Hanafi, sur ça, je suis Hanafi. Ou bien quand tu vas chez soi-disant les Shafi'i aujourd'hui, qui marient, qui acceptent que la femme se marie sans wali. On leur dit non, mais les Shafi'i, vous ne voyez pas ça. C'est où on a Abu Hanifa, il voit les Jawaz. Subhanallah. Alam taqul an akun Shafi'i. N'avez-vous pas dit que vous êtes Shafi'i? Non. Finalement, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. On choisit ce qui nous arrange. Et ben pourquoi là maintenant, ceux qui disent que l'Ihtifal bil Mawlid Nabawi c'est bon, ils ne nous ramènent pas une parole d'un imam? Parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Parce que cette bid'a, cette innovation n'a apparu que 4 ou 5 siècles après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Longtemps après la fin des salafs salih. Chez le Fatimiyya d'Égypte. C'est les premiers à avoir fait ça. Donc, si chacun il vient et comprend le Coran et la Sunna comme il veut, on n'arrêtera pas d'innover. On n'arrêtera pas de se diviser. On n'arrêtera pas de diverger. Et t'as ce que je dis à l'Aslam? هذوك السنيين هما اللي كيفرقوا الامه ديما يقولوا حرام ولا بدعه ديما سببهم وقعت الامه في الخلاف يا سبحان الله وهل يدعو اهل السنه والجماعه الا الى الائتلاف والاعتصام بالكتاب والسنه les gens d'aujourd'hui disent quoi c'est les gens de la sunna c'est eux qui divisent la communauté hein. Ils nous mettent sur le dos à nous leur division, alors que ce sont eux qui ont causé cette division. Et comme aujourd'hui on est les seuls à rester fermes sur le Coran et la Sunna, ce qui ne va pas dans leur sens, alors ils nous remettent la faute sur nous en disant c'est à cause de vous que la communauté est divisée. Regarde-moi, je vois comme ça et lui il ne voit pas comme moi, mais pourtant on est amis. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ hein, on s'excuse les uns les autres dans nos divergences, c'est comme ça leur qawa'id, leur règle. Non, on s'excuse pas. Allah il a haram al-ikhtilaf. Il a interdit la divergence. Et moi je t'ai excusé dans une chose qu'Allah t'a interdit. Et après on va marcher ensemble. Abad. Sabil al-wahid ila al-ikhtilaf wa ila al-wahda, wahda al-saf wa ila nadb al-furqa wa al-ikhtilaf huwa al-rujou' ila kitab al-kitab wa sunna bi fahm al-salaf. Laysa hunaka tariqun akhar. Le seul chemin qui amènera à l'union des musulmans, c'est le retour au Coran et la Sunna d'après la compréhension des vieux prédécesseurs. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de cela. وَخِيرًا مَا مِنَّا مِنْ أَحَدْ إِلَّا وَهُوَ يُقَلِّدُ مَنْ يَرَى أَنَّهُ الْأَغْبَى هَذِهِ بِالطَّبِيعَةِ جميع الإنسان بصرف النظر عن ديانته يقلد إذا أخذ ينظر في شاشات التلفاز يرى رجلا أعجبته ألبسته فإذا به في اليوم التالي يتوجه إلى المركز التجاري ليشتري نفس الألبسة أو آخر أعجبته طريقة كلامه فإذ به يتدرب أمام المرآة ليحاول أن يصبح مثله في الفصاحة والنطق وآخر أعجبته مشيته فإذ به يتدرب في ممر بيته ليمشي مثله أو ليكون ليمشي مثله وهذه طبيعة الإنسان إذا رأيت أحدا في الشارع فانظر إلى كيفية يعني ملابسه أو انظر إلى كيفية أو طريقة كلامه أو انظر إلى فكره فلم يكن هو الذي أسس هذا الفكر ولا الذي اخترع هذه الألبسة إلى آخره وإنما أخذها عن غيره لا بد من هذا مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قالوا لقد بدأت ونحن نقلدوه يشيء الناشئ على ما قد عوده أبوه فالإنسان يقلد ولده فأيها المسلم يا من تعترف بفضل أبي بكر وبفضل عمر وبفضل عثمان وبفضل علي وبفضل سعد وطلحة وبفضل بلال ومعاذ وبفضل معاوية وعمر أيهم أحب إليك في التقييد؟ هؤلاء الذين شهد الله عز وجل عليهم بالفضل والخير والصلاح والأجر العظيم والمغفرة، أو إنسان جاء بعدهم يقول بخلاف ما يقولون؟ قلد من هم أولى بالتقليد. انظر إلى هؤلاء الذين ذم الله عز وجل في القرآن حيث قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالله ذمهم حيث كانوا جهالا لا يعلمون شيئا. ونحن أشرنا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعمق هذه الأمة علما، لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ومن هو أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلدت ولا بد فقلد من هو أحق بالتقليد، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dernière chose, on remarque que l'être humain est un imitateur de nature. Il imite ce qui lui plaît chez les autres. Que ce soit les vêtements qu'il porte, que ce soit la façon de parler, que ce soit la façon de marcher, forcément, il fera une chose parce qu'il a vu quelqu'un d'autre le faire. Quelqu'un qui regarde la télévision, il est charmé par les vêtements d'un bonhomme qui passe dans une des chaînes. Alors, le lendemain matin, il dit: oh, ce vêtement, il était bien, je veux le même. Et il va acheter le même au magasin. Ou l'un autre, il a vu quelqu'un s'adresser en public devant les gens et il a aimé son éloquence. Alors, il va s'entraîner chez lui dans son miroir pour parler de la même façon que lui. Ou encore, la démarche. Je ne sais pas si vous avez des cow-boys ici à Verviers, nous en France, on en a plein. Il nous manque que les colts, hein, les deux pistolets à droite et à gauche. Il marche, on dirait, il a fait du cheval pendant toute sa vie. Il marche comme ça avec les jambes arquées, on dirait un crapaud. Al-Muhim, il marche comme ça, wallah, il est ridicule. Mais lui, il est content. Pas la nouvelle mode, les Daruha. Donc les gens en prison aux États-Unis, on leur enlève les ceintures, les pantalons. Ce qui fait que le pantalon, il descend, il baisse. Il se baisse et on voit que la makumullah, leur sous-vêtement. Eh bien, c'est au lait moudre. Quand le nas d'abat, il se voit que le chari, avec le pantalon baissé, il se voit le baisse d'akhili à tadhar. وقال لك على موت ذاك يقرب يمارش كوم سا افيك سو بوطالون بيسي اي يجي لا موت والله نزيد لان سانج تو افونس لو كي تو كو تو بوطالون بيسي ماتنون سي فيني موت اخي نحكوا علينا احنا حيت لبسوا القميص والله عجيب هذا جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء صلى الله ان يجعلني واياكم من الغرباء ونحن نعيش زمن الغربه والله اي ابخي يسموك دو توا كون تو باس دون لا ريو ان قميص. Voilà, j'ai vu des personnes âgées chez nous là-bas. Il marche, il a une veste fermée. Il marche comme ça. Il arrive à la mosquée, il ouvre sa veste. Et il y a son kamis qui descend. En fait, il a replié son kamis sur lui. Et il ferme sur lui la veste. Mais je suis proche avec le kamis. Il dit: pourquoi je fais ça? Il dit: mais je suis proche avec le kamis. يا سبحان الله جو باك لي جون يسموك دو مو هذوك الاخر غادي تقريبا عريان برا حتى واحد ما داها فيه الاخر غادي السروال وطيح حتى واحد ما داها فيه وانت الناس غادي يدوها فيك ولا العجب لوتر يزبلاد كازيمون نو بارسون لي بارل لوتر يزبلاد افيك البوطون نو بيسي بارسون لي بارل وانت راك تلقى مازال كي جون بارلي يا سبحان الله بحال واحد اخر نعرف نعقل عليه كان ربا اللحيه Il avait une belle barbe, mashallah. Mashallah, tu l'es. Et un jour, m'chette. Part. Quand il a l'air, il fait m'chette le fier. Quand il jamais le béhadi, il se قال للناس ضحكوا عليا قالوا لي جوصلنا قالوا لي جوصلنا كلوشا يا عجيب سبحان قولوا انتم الكلوشا ماشي انا كلوشا اللي كيشبه الكافر ماشي لا كلوشا اللي كيشبه النبي عليه الصلاه والسلام شكون اللي كان كرهنا بان الرسول ما كانش عنده لحية شكون حتى واحد واخا جاهل بالسنه ما تلقى حتى واحد من المسلمين ينكر بان الرسول كانت له لحية وانت تعرف بان الذي يحاول يتشبه بالنبي يعني يتقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل فكيف تقول أنا كلوشا هو مالي كلوشا شكون ما عندوش لحية الكفار فنقولوش بأن الذي ما عندوش لحية من المسلمين الكفار لا ولكن احنا عندنا بأن الناس في الأصل الرجال يخلوا اللحية وما بدأوا يحلقون لحاهم إلا بعدما صاروا يساكنون ويعاشرون هؤلاء الكفار فأخذوا يقلدونهم حتى في هذه الأمور المذموم. Donc je disais un homme aussi dans ma mosquée aussi qui a laissé pousser sa barbe. Il avait une grosse barbe, une belle barbe, mashallah. Et un jour il vient, il a plus de barbe. Je lui dis, ami, où est ta barbe? C'est un homme âgé. Il me dit, les gens, ils m'ont dit, je ressemble à un clochard. Subhanallah. C'est qui le clochard, billah alayhi? C'est celui qui cherche à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que personne ne va jamais nier parmi les musulmans, même si c'est le plus grand des ignorants, que le prophète avait une barbe. Personne. C'est qui le clochard? Celui qui ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien celui qui ressemble au kuffar? Parce que cette ada, cette habitude de se raser, c'est pas nous qui l'avons développée. Quand je dis les musulmans, non, on ne l'a développée que lorsqu'on s'est installé avec les kuffar. Sinon, à la base, les musulmans ne se rasaient pas là. Ils ont commencé à se la raser quand ils ont commencé à vivre avec les kuffars. Donc, comment toi, tu portes la sunna et quand tu dis sur sunna clochard, ben, ah bon d'accord, on chahit l'ihya. Hajib. Falmohim, les gens, ils qallidoun. Les gens, ils imitent. Les gens, ils font comme le poème qui disait, le paon a marché un jour avec orgueil. Et le paon avec ses belles, ses belles plumes, il marche avec orgueil. Et ses petits ont tenté de d'imiter sa démarche. Mais le paon, quand il est petit, il n'a pas la même parure que l'adulte. Alors le père leur dit, mais pourquoi vous enorgueillissez-vous? Pourquoi vous marchez avec orgueil alors que vous n'avez pas le même attirail que moi? Ils répondirent, tu as commencé et on ne fait que imiter. Et la morale de l'histoire, c'est que l'enfant, il grandit en imitant ce qu'il a eu l'habitude de voir chez son père. C'est comme ça. Et ça, c'est ma'rouf. Un tas de kundar qui s'allait, ou tu chauffes le wala ta'ak en l'amène, ou la akal min d'alek ahiyan, tu chauffes le jisr l'ihdak. Gagne à l'amène d'alek shidda. Lèche l'annahu ta'awada ala an yara abahu ou ummahu. Nous sallons à mama. Tous ici, on a des enfants, tout petit, un an, deux ans, ils nous voient prier, alors ils viennent prier avec nous. Des fois, subhanallah, toujours ils font ce truc-là, ils se mettent la qibla, elle est comme ça, ils vont l'autre côté, ils font deux, trois sujets, ils ne priaient pas. Mais le mohim, ils connaissent chez Arkan min as-salah comme ça, un bébé. Pourquoi? Parce qu'il voit ses parents prier devant lui, alors il fait comme. Tout à l'heure, on a parlé de Qiyam al-Layl avec les salafs. On a dit quelque chose qui était connu et réputé, et tout le monde le faisait. Pourquoi? Parce que l'enfant, il grandit dans une maison où les gens, ils se lèvent la nuit pour la prière. Ce qui fait que lui, il grandit, et ses parents, ils le réveillent la nuit. Non, 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 non. Et il grandit comme ça. Et pour lui, après, ça devient normal de prier la nuit. Mais nous, nous avons grandi sur le Kamel. Nous, on a grandi en dormant toute la nuit, et c'est à la hâle et rajouter ça la moitié de la journée en plus des fois. Quand on fait des bonnes grâces matières. C'est plus des grâces matières, c'est des grâces après-midi. Allah Musta'an. Tu vas absolument imiter quelqu'un ou quelque chose. Que ce soit une pensée, une idéologie, une philosophie, une façon de parler, une façon de marcher, une façon de t'habiller, même une façon de te coiffer. T'as vu les coupes qu'il y a dehors aujourd'hui? Les coupes de cheveux, voilà, tu vois des choses, c'est pas possible. Il y a 10 ans de ça en arrière, quelqu'un est sorti comme ça, il s'est tapé par tout le monde. 10 ans. Et là-bas, aujourd'hui c'est normal. Il a un trou là, il a des cheveux là, il a des pointes, on dirait un dinosaure. Wallah. Et lui, normal, il marche dans la rue, حتى واحد ما تسلم معاه. فالله المستعان. Donc tout le monde imite. Tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui, comment ils s'habillent, comment ils vivent, ils font qu'imiter des modes qu'ils voient à la télé. Et même حتى الكبار, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc si tu dois imiter, imite ceux qui méritent à ce qu'ils soient imités. Qui sont-ils? Les meilleurs des êtres humains dans cette, dans la création. Dans cette communauté, dans la création. Après les prophètes et les messagers, les meilleurs êtres humains, ce sont les sahaba radiallahu anhum. Had amr la bouddha nufham. Ça, faut le comprendre bien. Les meilleurs êtres humains dans toute la création après les prophètes et les messagers, ce sont les compagnons radiallahu anhum. Donc si tu veux imiter quelqu'un, imite ceux qui méritent à être imités. Et dis-toi dans ta tête que quoi que tu fasses, tu imiteras quelqu'un. Ne te dis pas, non, 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 moi je suis tout seul, moi. Ne te dis pas, moi je suis tout seul, je fais ce que je veux, moi. C'est faux. C'est faux. Tu vas absolument et obligatoirement imiter quelqu'un ou quelque chose. Dans le verset Allah Ta'ala, il dit, lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a révélé et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, non, 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 ça nous suffit ce qui a été, ce qu'on a trouvé chez nos pères. Ça nous suffit. Après, Allah il dit, mais leurs pères ne savaient-ils pas rien et n'étaient-ils pas égarés? Non, ils ne savaient rien. Jahl tam. Jahl mahad. Une ignorance complète de la part de personnes analphabètes et illettrées. Et les sahaba radiallahu anhum avaient la science la plus profonde et la plus grande. Leur père était égaré et les sahaba radiallahu anhum sont bien guidés par le témoignage d'Allah dans le Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et de tous les musulmans sauf les égarés parmi eux. Et là, il n'y a aucun intérêt à donner leur parole à cela. Donc toi qui es doué d'intelligence, Allah il t'appelle par cela dans le Coran. Ya ulil albab, ya ulil nuha, ya ashab al-uqul. Toi qui as compris cela, maintenant dis-moi qui mérite plus à être imité, eux ou d'autres. Fa yatabadaru ila al-dhihni al-jawab fi man 'indahu aw fi man lahu 'aqlun salim. Et la réponse va se manifester instantanément dans la raison de celui qui a une intelligence claire et pure. C'est les sahaba radiallahu anhu. Khulasatu qawlina wa hadithina wa kalamina annahu la yasa'u li ahadin an yastaqilla bi fahmihi fil kitabi wa sunnah wa innama yajibu alayhi an yarji'a ila fahmi khiyari hadhihi al ummah ala wa hum aslafuha. Conclusion de tout cela, c'est qu'il n'est permis à personne de croire qu'il a le droit de comprendre les textes du Coran et de la Sunna tout seul, comme il l'entend, comme il le veut. Mais il est obligatoire de revenir à la compréhension des plus prédécesseurs, radiyallahu anhu. Imagine, je viens de voir, avec, excusez-moi le terme, une baguette magique. Et je te dis, tout de suite là, tu n'as qu'un mot à dire, et je te donne le fahm d'Abu Bakr. Du Coran, tu vas me dire non? Non, je préfère le mien. Tu vas me dire ça? Là. N'importe quel musulman normal, il va dire Bismillah. Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le meilleur de la Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le meilleur être humain dans toute la création après les prophètes et les messagers, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Alors j'ai l'air de vous dire, شوف بإمكاني أن أهب لك فهم أبي بكر تقبله وترفض. ماشي غادي يكون جوابك؟ قول لا. صاحب العقل السليم ما يقول إلا نعم. Je viens de voir, je te dis, je peux te donner la compréhension d'Abu Bakr radiallahu anhu. Tu veux ou tu veux pas? Tu vas me dire non? Impossible. Si t'es normal dans ta compréhension, tu vas me crier, donne-la-moi! Eh ben, elle est là, mon frère. Elle est là, alhamdoulilah. Dans les kutub, dans les livres. Elle a été expliquée par les savants. Dans toutes les générations, alhamdulillah, elle est présente. Celle d'Abu Bakr, et celle de Omar, et celle de Uthman, et celle de Ali, elles sont présentes, leur compréhension, alhamdulillah, dans les livres qu'il faut lire, comprendre et apprendre. Et bi'idhnillah, si tu t'accroches à ce chemin-là, lan tadillu abada. Vous ne serez jamais égaré. Sallallahu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana lil-i'tisam bi kitabih wa litamassuki bi sunnati nabiyyih wa li وللرجوع إلى فهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.